Tout de suite sur MDM, Fiesta Brava, en partenariat avec Toromag. Toromag, le mensuel de la tauromachie.
Por el camino se iba toreando, con su capote y con su Mercedes. Por el camino se iba toreando.
El coco,
el coco,
el coco.
Y no me quiero recordar. Alegría, pensamiento.
Bonjour aficionado, aficionado. Maintenant le rendez-vous, vous le savez, c'est tous les 15 jours jusqu'à fin octobre. Invité en studio, Pascal Bounot, président de Mobrugué Aitoros, qui va nous parler bien sûr de la Noviada San Picador qu'il organise le dimanche 22 à 16h, précédé de la Capea à 11h. Bonjour Pascal.
Bonjour. Bonjour à tous les auditeurs de Fiesta Brava.
Je suis donc avec Gilles Béziat.
Bonjour à tout le monde.
Vincent Tachon.
Bonjour à toutes et à tous.
Et Aymeric Martinez.
Bonjour à tous.
Et à la technique, bien sûr, c'est Pierre Allaire et Nico. Voilà, donc pour un petit peu parler de ce que nous allons dire dans cette émission, nous reviendrons bien sûr sur Toro y Salsa, avec Pascal Laguian que nous aurons au téléphone, parce que lui, il s'envole pour un pays, dans peu de temps, pour un pays où il n'y a pas trop de corrida en Albanie. Et donc, on parlera avec lui de cette encerrona d'Emilio de Rusto, puis après, on développera un peu plus sur ce qui s'est passé à Toro y Salsa. Mais pas que, puisque nous étions donc à la Nuit du Taureau et pour la Noviada de Rossi Cruz ainsi que la Corrida de Algara Polera. Et nous parlerons un petit peu des péripéties montoises sur la nouvelle commission taurine. Quelques notices pour finir. Mais on va attaquer de suite avec Pascal Bounot. Mobrugué à Toro. Mobrugué Toros en Mobrugué. Arène, hein?
Mobrugué Toros, Mobrugué en fait.
Voilà. Toros, c'est ça?
Mobrugué Toros,
tout Mobrugué simplement. Toros, tout simplement. Voilà. Arène Pierre Balao. C'était qui, Pierre,
oui,
Balao?
Alors, Pierre Balao, c'était un écartoir mobrugué-tois. Voilà, donc, il y a quelques années, on lui a rendu hommage en baptisant les arènes de Mobrugué, arène Pierre Balao. Voilà. Son nom d'arène, c'était Pierre Estirac. Voilà, je ne sais pas, ça peut rappeler quelques souvenirs aux Coursaires.
Trophée de Gascogne, il y a un trophée. On peut expliquer ce que le trophée,
oui,
de Gascogne.
Oui, alors le trophée de Gascogne, en fait, cette année, c'est la première édition. Avant, il y avait le trophée du Val d'Adour qui réunissait les arènes de Mobrugué, Plaisance du Gers, Riscle, Aignan et Castelnau-Rivière-Basse. Voilà, j'oublie personne. Et on a décidé, l'an dernier, en fait, qu'il fallait qu'on élargisse un petit peu au niveau des arènes, qui, sur la zone Gers-Haute-Pyrénées, organise des Noviadas San Picador. Donc, on a transformé le trophée Val d'Adour en trophée de Gascogne, en invitant nos amis d'Eos et de Vifeu-Dansac qui organisent chacun d'eux une sans-piquée. Voilà, hein. Donc, c'est les 5 arènes de départ, plus Eos et Vifeu-Dansac.
Vous êtes 8 à présent.
Voilà.
Dans le trophée de Gascogne.
Exactement, voilà. Hein.
Dimanche 22 septembre, dont la date a changé. Vous nous avez expliqué tout à l'heure en aparté un petit peu pourquoi.
Oui, alors tout simplement, voilà, cette année, les fêtes de Mobrugué tombaient en même temps que la Feria de Dax. Donc, bon, en termes, on craignait pour l'affluence, on va dire. On avait quelques soucis d'organisation également. C'était compliqué de mobiliser tous les professionnels pour venir à Mobrugué, hein, pour la Noviada. Donc on a fait le choix, en accord avec la mairie de Mobrugué, de décaler et de sortir du cadre des fêtes. Donc on est venu se positionner là, cette date du 22 septembre, au mois de en fin de saison en fait. Hein, donc il n'y a pas de grande concurrence. Donc on espère qu'il y aura un bon retour de la part du public.
Bien sûr, il n'y a pas de problème, surtout qu'il fera beau. Et puis bon, c'est pas très loin en même temps, Mobrugué.
Et non, c'est l'arène la plus en amont sur l'Adour. Hein. C'est quand même, l'Adour, c'est le fleuve taurins du sud-ouest, je dirais. Ouais. Et donc voilà, on est dans les Hautes-Pyrénées avec Castelnau-Rivière-Basse. On est les deux seules arènes des Hautes-Pyrénées. Dans le nord du département, c'est dur pour nous, c'est pas évident. On est en limite de zone de tradition, donc il faut ferrailler quoi, pour organiser. Bon, c'est le cas de tout le monde, mais nous, c'est peut-être un peu plus difficile qu'ailleurs. Quoi, voilà.
C'est la combien d'éditions ?
Très bonne question.
À peu près.
On doit être à une douzaine, quelque chose comme ça.
Ah, quand même, oui.
Bon, en fait, la tradition taurine, elle est vieille à Maubourguet.
Oui,
elle a été, comment dirais-je, plus ou moins entrecoupé par de grands espaces de blanc, là. Et puis, c'est depuis les années, début des années 2000, c'est vrai que...
Là, c'est suivi régulièrement.
C'est tous les ans, voilà. Hein. C'est Castelnau-Rivière-Basse, dans les Hautes-Pyrénées, qu'il faut leur rendre hommage, qui avait remis la tauromachie espagnole au goût du jour, sous l'impulsion de François Fortassin, le sénateur disparu, qui était un grand aficionado pyrénéen. Et c'est lui qui a aidé Castelnau en 2000, je pense, la première année. Et puis nous, on a embrayé un ou deux ans après Castelnau. Voilà, on a suivi. Et c'est vrai qu'avec Plaisance, Riscle, Aignan, il y a eu un certain renouveau de la tauromachie espagnole dans cette région du Haut-Adour, quoi, on va dire, là, de cette partie haute de l'Adour.
Ouais, c'est très, très bien. Parce que, alors, cette année, vous avez opté pour la ganaderia de l'Astarac et Santiago.
Et Camino de Santiago.
Camino de Santiago. Mmh. Mais c'est vrai qu'ils ne sont pas loin, déjà.
Alors, géographiquement, c'est le ganadero le plus près de Maubourguet, hein, avec également la famille Bonnet, le Larté. C'est les ganaderos les plus près de chez nous. Donc, Jean-Louis, il était venu il y a 3-4 ans, je pense. On avait fait une compétence à ganadera. Il était venu avec deux hérales du Camino. Bon, et puis, bon, c'est notre voisin, donc là, cette année, il fallait quand même... Il y a longtemps qu'il voulait venir, Jean-Louis, on a marqué le coup, donc voilà, on a mis le paquet, il vient avec la noviada complète, avec ses deux fers, et puis le matin, il vient pour la tienta avec deux vaches du Camino. Voilà.
C'est pratique, puis en même temps, ça permet à un ganadero local de se montrer.
Bon, ça peut mobiliser un petit peu la friction du coin aussi,
bien
quoi,
sûr.
Hein, de venir voir la ganaderia voisine...
Tout à fait. Vous avez une clientèle plutôt locale ou vous avez pu analyser un peu tout ça ?
C'est difficile, hein. Je crois que c'est très compliqué. Alors local, oui, plutôt, oui. Après, beaucoup de gens du Gers, quoi, qui viennent. Bon, on est limitrophe du Gers. La fiche hollandaise, un petit peu de la région d'Ers-sur-Adour, quoi. Enfin, bon,
d'accord.
Vraiment la zone la plus proche, quoi, je dirais.
Bien sûr.
La région paloise un petit peu, Tarbes un petit peu, c'est compliqué.
Donc on s'aperçoit que la distance compte quand même.
Oui, on est vraiment au bout du pays taurin, quoi, je dirais. Hein, on le sent. On n'est pas ici à Mont-de-Marsan, on n'est pas à Saint-Sever ou à Gédemont. Mais il y a un maillage. La culture taurine, elle est quand même différente dans les Hautes-Pyrénées. Hein. Vous, messieurs, vous habitez dans les Landes, vous êtes à moins de 20 km d'un élevage de vaches landaises, de taureaux.
Nous sommes privilégiés.
Exactement, vous pouvez, enfin tout petit, vous pouvez amener vos enfants voir les vaches, voir les taureaux. Nous, c'est plus compliqué. Quoi.
De faire vivre la culture taurine espagnole.
Voilà. Très clairement, hein, très clairement.
Et même,
très clairement.
Même avec les courses landaises.
Oui, voilà, il y a toujours eu des courses landaises à Maubourguet, par contre. C'est clairement le terreau indispensable, je pense, à l'implantation de la tauromachie espagnole. Mais on est vraiment au bout du truc, quoi, là, chez nous.
Alors là, il y a une quinzaine d'années, on va dire, que vous organisez régulièrement ce spectacle.
Oui, tout à fait.
Et donc, vous avez eu quand même des... Moi, je me souviens notamment Coquilla de Sanchez Arona.
Ah,
vous avez eu quand même certaines ganaderias qui piquaient, hein, à Maubourguet.
C'est un petit peu... Oui, alors, voilà, on a tous une sensibilité, torerista, ouais. Torista. Clairement, moi, je suis plutôt torista, quoi. Je pense que c'est quand même indispensable qu'il y ait du taureau en piste, à quelque niveau que ce soit, sans piquer. Je crois que tant qu'il y aura du taureau, on sera inattaquable, voilà, par rapport à tous les gens qui veulent nous faire disparaître, quoi, tout simplement. Le jour où le spectacle n'est plus défendable par rapport à ça, ben je crois que ça sera fini, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça.
Non, non, mais c'est une très bonne analyse, je pense qu'on partage.
Ah, totalement, oui, tout à fait. Surtout qu'en plus, ici, il y a une tendance plus touriste que torériste.
Hein, d'accord.
Bon, en même temps, moi, je veux dire que on peut pas se passer l'un de l'autre. Il y a des aficionados torériste et touristes, mais ils ont tous les deux déjà au moins la qualité d'être aficionados. Ouais. Et non, je ne pense pas qu'on est là pour divider les
tout,
gens.
Toute une histoire d'équilibre, bien sûr. Oui. Moi, effectivement, une corrida mansa où on ne voit rien du tout, ce n'est pas non plus le...
On s'ennuie très vite.
L'idéal, c'est d'arriver à trouver un équilibre, surtout. Quoi. Mais je pense que c'est quand même le taureau devant. Quoi.
Voilà. Alors donc, le matin, ça débute à 11h.
Voilà, voilà. Il y a une tienta, donc, à 11h. Donc, avec deux vaches de Jean-Louis, du Camino, pour... Ricardo Torres, donc, qui est un torero aragonais, hein, qui a mis plus ou moins entre parenthèses sa carrière il y a l'an dernier, je crois que c'était. Et c'est un torero, je pense, qui mérite d'être vu. Voilà, donc c'était l'occasion, hein, à Maubourguet. Faut pas oublier que derrière les montagnes, chez nous, c'est l'Aragon. Donc il y a ce petit geste à la fission de l'autre côté des Pyrénées. Voilà. Alors, deux secondes, sur sa vache sortira son fils, Cristiano, hein, qui est à l'école taurine de Salamanque. Et donc là... J'ai ouï dire que c'était quelqu'un qui avait des qualités, quoi. Donc ça permettra de le découvrir à Maubourguet.
Oui, voilà. ça permet de mettre le pied à l'étrier, voilà, à l'Aragon, qui est juste derrière, voilà, chez vous, c'est bien.
Voilà, et sur la seconde vache, eh bien, on a pensé à nos voisins béarnais, c'est Dorian Canton.
C'est normal.
Voilà, hein, bon, c'était... Voilà, il sera accompagné, lui, d'un autre Bernet, Jean Larouquette, Juanito.
Comme quoi, vous pouvez être quasiment autonome en matière de tauromachie, entre les élevages et les toreros.
Oui, oui, effectivement.
Il y a quand même un vivier.
Oui, mais vraiment des Hautes-Pyrénées de Bigorre, c'est vraiment nos voisins.
Il y a quand même un vivier quand même, qui existe.
Oui, oui.
Une base de travail.
Il y a une petite affiction, clairement. Hein. Il y a des gens de Maubourguet, des villages de Tarbes même. Il y a des gens qui viennent à Mont-de-Marsan, qui vont à Dax, qui vont à Bayonne, clairement. Mais bon, il n'y a pas le volume que vous pouvez avoir ici, quoi, c'est clairement. Voilà. Après, les gens qui sont aficionados chez nous le sont bien, quoi. Je veux dire.
Le volume n'est pas forcément gage de qualité.
Il y a une
plus.
Certaine, voilà. Il y a de la qualité, on va dire.
Mais je crois que quand on est un petit peu éloigné, on fait d'autant plus l'effort.
Exactement.
Pour avoir de l'aficion.
D'accord. C'est ça. Et je pense que ça forge une aficion de qualité, voilà. Mais c'est vrai, en volume, qui est pas très important.
Ça viendra, quoi, petit à petit.
Je sais pas, ça va être compliqué. Moi, je rêve de voir des taureaux à Tarbes. Un jour, il y en a eu autrefois.
Oui,
dans les années 50,
même à Pau.
Même à Pau, mais bon, ouais, c'est pas dans l'air du temps, quoi, on va dire. Quoi,
non, mais bon, on verra bien.
Voilà. Le tout est de défendre les arènes de Maubourguet, de Castelnau. Bon, avec Michel Raymond à Castelnau, on fait tout pour sauver nos deux arènes, quoi. Voilà.
Et c'est très très bien. Nous, on est là pour vous aider. Et donc, on va donner le numéro de la réservation ou de la location tout de suite,
alors,
déjà
c'est surtout pour les repas, le midi. Hein,
d'accord.
Alors, le numéro, il est ici, voilà.
Eh bien, c'est le 06 43 78 53 15.
Voilà, c'est ça.
C'est ça.
C'est ça même.
06 43 78 53 15, et puisqu'à 13h, il y a le repas de la fission.
Exactement, voilà, et à 16h, après le clou de la journée, la noviada.
Bien sûr, un menu élaboré avec des artisans de bouche et des producteurs locaux.
Oui.
Ça aussi, c'est original. C'est quelque chose qui a été fait plus ou moins ici pour la noviada de Saint-Perdon.
Oui.
Comme il y avait une journée complète avec les Baltazari Ban le matin et la concours l'après-midi. Et c'est toujours intéressant de mettre en valeur aussi les produits locaux.
Je crois que c'est un tout. C'est un tout. Ouais. Il faut faire travailler les gens qui nous font confiance.
Et en plus, c'est pour un prix tout à fait raisonnable. 15 euros le menu, je vois, plus sur le menu, c'est agréable. Ouais. C'est un petit moment de convivialité aussi, de gastronomie locale, c'est vraiment bien.
Mais on essaie de rester à la portée du plus grand nombre.
Voilà. C'est Peyo qui composera l'assiette composée,
voilà,
et les délices de la vallée. Et Dieu sait qu'il y en a des délices dans la vallée.
Et des Peyo aussi.
Des Peyo aussi. Mais on en a un.
Voilà. Un achat de veau, c'est toujours très apprécié, ouais, pour suivre. En plus de la boucherie du Bertrand et la ferme Bidot, il y a même l'origine, il y a le suivi.
Ah, mais toute la traçabilité est là.
Toute la traçabilité est là. Et donc, la boulangerie pâtisserie Griffon qui amènera le dessert, café Armagnac, bien sûr, on est dans la région. On n'est pas trop loin de l'Armagnac.
Non, on n'est pas dans la région,
mais pas loin. Bon, on n'est pas loin.
Comme vous, on ne peut pas faire ça. Quoi.
Oui, mais vous habitiez avec Vic, etc. etc.
Voilà, exactement.
Ils veulent exactement sur Romain Armagnac.
Voilà, il leur faut le carburant. Sinon, ça ne va pas aller.
Vous avez suffisamment de place, oui, sur le chapiteau?
Logiquement, oui. On prévoit. Alors, j'ai commandé le grand beau temps.
Le
priori,
grand beau temps, il y sera, vous inquiétez pas.
Donc, voilà. Donc, on vous attend tous, quoi, avec plaisir.
Donc, on le rappelle, pour le repas, c'est 06 43 78 53 15. Et donc, à 16h, c'est la noviada.
Oui.
San Picador.
Oui.
Nouvelle San Picador, on l'a dit avec Ganaderia de la Starac et Camino Santiago, 3 et 3.
Exactement.
Pour Christian Parero.
Oui.
Donc Christian Parero, on le connaît quand même. Voilà, je vais vous laisser discuter un petit peu, parce que Nouvelle San Picador, c'est Vincent Tachon qui ici va souvent au Nouvelle San Picador, le spécialiste.
Oui. Oh, c'est pas spécialiste, non, mais après, c'est un spectacle qu'il ne faut surtout pas négliger, parce que c'est quand même la base de tout. Sans Nouvelle San Picador, on n'aura pas d'affiches dans les gradins et on n'aura pas de Torero Apprenti qui deviendront peut-être plus tard des grandes figuras. Donc la San Piqué, c'est le spectacle qu'il faut préserver en priorité, quoi.
C'est tout simplement la base, hein. Je crois que...
C'est la fondation de la tauromachie.
C'est le poumon, ouais.
C'est un peu ce que l'école primaire est à l'enseignement.
Exactement. Exactement.
C'est la base et il faut passer par là, quoi.
C'est indispensable, hein. Alors, c'est vrai que c'est compliqué pour nous, organisateurs de San Piqué. C'est vrai que le grand public ne nous suit pas forcément, hein, je dirais, mais... À regret, quoi. J'aimerais qu'il y ait plus de monde, ouais. Des aficionados qu'on voit dans les grandes arènes, qui fassent de temps en temps l'effort de venir nous
jusqu'à
voir.
Chez vous, jusqu'à Montbrugué. Alors, ça, les aficionados, il faut aller à Montbrugué.
C'est malheureux parce qu'on voit quand même des novillas San Picador quand même de qualité.
Bien sûr.
On voit des novillas, on voit des gamins qui actuellement, on n'a jamais eu une génération qui a jamais aussi mieux toré qu'aujourd'hui. Alors après, on va pouvoir dire la personnalité, tout ce que vous voulez, mais techniquement, quand même, on voit moins de pétards, on voit moins de gamins
apeurés,
vert qu'avant. Le niveau, quand même, aujourd'hui, à Saint-Piqué, quand même, est élevé.
Sérieux, très sérieux.
Très sérieux, très élevé. On voit des gamins qui sont préparés. Quand on est dans une région plutôt touriste, quand même, avec face à du bétail, quand même.
Assez piquant, ouais.
Assez piquant et avec du volume.
De la présentation.
Donc c'est pas rien. Donc, moi, j'ai dû en avoir, je pense, une quinzaine cette année de Nouvelle San Piqué. Moi, j'y ai trouvé mon compte autant que dans des grandes corridas de taureaux. Hein.
Mm-hmm. Christian Parero, c'est le vainqueur du bon signe de vous,
aussi, oui, c'est ça. Fait. Bon. Ouais. Je sais pas, tout le monde, enfin, vous avez pu voir San Piqué dans le coin. Moi, je l'ai vu avec faisant un sac pour la feria. J'étais estomaqué. Quoi,
beaucoup de recours, et vraiment.
Beaucoup de personnalité, moi, je trouve. Il a de la torreria.
Il avait, alors, pour un peu, moi, je trouve qu'il avait connu un petit peu, après Castelnau, Rivière-Basse, un petit, petit plongeon. Un petit plongeon. Moi, je l'avais vu à Saint-Sevé. On m'avait dit que c'était le vainqueur de Bougues. Et je dis, je suis étonné, parce que pour un vainqueur de Bougues, je m'attendais un petit peu à autre chose. Et je l'ai vu à Rion. J'ai vu un gamin trans. J'ai vu un autre torero.
Et est-ce que tu l'as vu à Vic?
Je l'ai vu à Vic.
Parce qu'à Vic, il a été excellent.
Il a été excellent.
Pas Jasmin Yang qui piquait, qui collait corne droite. Il a été bon.
Non, mais il a été très bon.
Excellent. J'ai retrouvé un autre auto-héro, un vainqueur du Bolsin de Bougues.
Après, il est tout frêle.
C'est vrai qu'il a eu ce petit moment de creux.
Ce petit creux. Et il s'est repris. Et moi, je l'ai trouvé énorme à Rion, avec une Oyada qui a eu du niveau. Et il finit la saison tambour battant, donc c'est intéressant, quoi.
Il a un physique à son avantage, parce qu'il est, il a une petite bouille toute mignonne.
Ouais,
donc tu le prends d'affection, et non mais ça joue. Ouais, la tauromachie, c'est du théâtre un petit peu. Donc, et puis il tue formidablement bien pour un nouvel héros sans picador.
Ouais.
Malgré son petit physique, il tue bien.
Il est pas mal, oui. Je sais pas, c'est un bon petit espoir. Et c'est vrai que peut-être que quelqu'un comme lui, eh bien, va évoluer très positivement. Et quel plaisir de pouvoir dire dans quelques années, je l'ai connu en non piqué. Mm-hmm. Et c'est une évolution.
Et notamment, je l'ai vu à Montbrugué. Voilà. Le bon chef de Lydia, vous voyez, ça fait l'unanimité autour de la table.
Il faut préciser aussi qu'il est mené par un Français, Thomas Cerqueira.
Voilà, il est de Chiclana, mais il est à l'école taurine de Béziers. Ouais.
De Béziers, donc bon, c'est...
Tout à fait.
Manuel Pereira, on connaît moins. Toujours, peut-être Vincent.
Alors, il est venu, je pense, une fois en France. J'arrive pas, j'ai regardé dans mes archives. Il est venu, je crois, une fois, alors, cette année. Je ne sais pas si c'était à la Fragua, à Pontanx.
Peut-être.
Je sais, à Montbrugué.
Je n'ai pas souvenir de lui à la Fragua, mais bon.
Mais
il n'a peut-être pas été qualifié.
Alors, c'était peut-être comment dirais-je, même pas en Nouvelle San Picador, peut-être sur une...
Une KPA ou une Tienta.
Ou une Bolsine,
ou quelque chose comme ça.
Ça. Bon, écoutez, j'ai eu l'occasion de le voir. Alors, pas. Je l'ai vu par les images, en fait.
Oui, bien sûr.
Il a gagné le trophée Andalusia Canal Sur. J'ai vu un garçon courageux, avec de la technique. Au niveau personnalité, je pas le recul sur une prestation.
Bien sûr.
Je pense qu'il y a des choses à faire.
Bien.
Voilà.
Il est à découvrir.
Exactement, voilà, c'était un petit peu, c'est pour ça qu'on l'a positionné sur l'autocartel.
Voilà, bien sûr.
Parce que ça sera, je pense, et j'espère qu'il y aura beaucoup de collègues organisateurs, l'occasion peut-être pour lui de se montrer pour l'an prochain, quoi.
Non, mais tout à fait, il est jeune. Et puis quand on gagne quand même le Bolsin Canal Sur, oui, c'est déjà pareil.
Ça démontre quand même.
Il y a du monde déjà là. En compétition.
Moi, je l'ai vu à la télé. Après, bon, voilà, il n'y a pas le ressenti d'être en direct, en piste.
Mais... Manuel Pereira, il était cette année à Mont-de-Marsan.
À Mont-de-Marsan.
Ah, voilà.
Et il a eu un taureau, un ovillo d'Alma Serena, sur lequel il a fait silence, mais il était à Mont-de-Marsan. C'est pour ça que son nom me parlait, j'ai cherché il était à Mont-de-Marsan.
Voilà, c'est ça, voilà. C'est...
En résumé, assez stylé et tauromachie efficace. Mais il a pinché 2-3 fois. Ouais, il était à Mont-de-Marsan cette année.
Ouais, l'Alma Serena qui a d'ailleurs été déclaré triomphateur
avec des cornes très
basses. Ouais. Mais qui avait beaucoup de volume.
Ouais. Oui.
Non, le volume ne l'impressionnera pas.
Je pense pas. Moi, je l'ai vu, c'était une noviada en Andalousie qui avait du volume, pas forcément beaucoup de tête, mais bon.
Et Jean-Baptiste Luc, c'est un local.
Bon, messieurs les Landais, oui. Je vous laisse.
On ne le présente plus maintenant.
Voilà.
Vincent.
Moi, je vais être tout à fait honnête. Pour avertir les auditeurs, moi, je suis un peu parti pris avec Jean-Baptiste parce que je le suis comme un morceau d'espada. Donc, je vais essayer d'être le plus objectif possible, ce qui n'est pas forcément évident. Donc, Jean-Baptiste, c'est une première année. Pour une première année, il a beaucoup toré. Il a coupé des oreilles. Pour une première année, il est forcément un peu vert. Mais par contre, il a une envie et une détermination qui sont exceptionnelles. Il sait où il veut aller. Il sait ce qu'il veut faire. Et il compense ce manque de technique, ce manque d'expérience par une envie, une volonté de bien faire les choses. Alors forcément, il y a des accrochages. Forcément, ça dénote avec un niveau d'un Christian Pairaud qui est depuis 3-4 ans en sans piqué, qui en a touré beaucoup plus. Mais avec ses armes, il se défend. Et ce qui est très important, et c'est ce que personnellement, moi j'attends des novilleros sans piquador, c'est que à chaque sortie, il y a une évolution. Voilà. Et Jean-Baptiste, depuis sa première à Mugron jusqu'à ce qu'il va se présenter à Maubourguet, c'est plus du tout le même garçon. Voilà.
Donc allez le voir également.
Allez le voir, oui.
Voilà un cartel très intéressant avec Christian Parero. Donc, on a dit que du bien et puis qui confirme de plus en plus à chaque sortie. Manuel Pereira qui est à découvrir absolument après sa prestation à Mont-de-Marsan. Et donc Jean-Baptiste Luc, comme on dit Vincent, qui progresse à chaque fois.
Voilà. Pour revenir sur les propos de Vincent, ses défauts, en fait, entre guillemets, pour moi, ce ne sont pas des défauts. C'est ce que devraient être, je dirais, tous les novilleros de San Piqué qui débutent sur leur première année. Il a, ce qui, je pense, c'est l'envie, c'est la chose essentielle, l'envie et le courage qui vont avec. Et le fait de venir à Maubourguet, je pense, sur une de ses dernières sorties de l'année, je pense que ça lui permettra également de se positionner pour l'an prochain. Donc, je pense que le cartel n'a pas trop mal rématé.
Il est attractif.
Il est très bien monté, parce qu'on a Christian Pairaud qui est la confirmation et qui va mener tout ça. On va avoir la fraîcheur avec le second Pereira, et puis Jean-Baptiste qui va arriver là, qui a essayé de mettre le bazar pour faire sa place.
Très bien, voilà, c'est un petit peu la philosophie du...
Voilà. Et comment ils sont ces bêtes du Camino d'Astarac, c'est des...
Alors... Maubourguet, voilà, on aime plutôt le taureau, quoi, globalement.
C'est le taureau ou le novillo? Attends,
le taureau en général.
D'accord. Alors,
avec un grand T.
Voilà. Non, c'est plutôt bien présenté. Alors, l'Astarac, on va dire beaucoup de tamagno, des animaux assez hauts, longs, un petit peu, bon, mais dans leur origine Pedrara, quoi. Pas super impressionnant au niveau des têtes, clairement, je le dis. Mais il y aura du volume en piste, ça, clairement, voilà. Et les caminos, bien faits, plus ronds, bas, de jolies têtes, voilà. Une course bien présentée, bien équilibrée, 3 et 3, voilà, ça devrait le faire, je pense. Mais il y aura du volume en piste, c'est clair.
Ils vont entourer un chacun.
Alors voilà, un Astarac et un camino pour chacun.
Et bien
voilà. Ben oui, ça me paraît...
Oui. Et après, ils choisiront dans quel ordre ils sortent.
C'est eux qui choisiront, après, voilà, oui. Après, non. Ça, après, on les laisse.
C'est eux qui choisissent.
C'est pas un concours de ganaderie.
Non, mais c'est important.
Voilà, non, ils mettront...
Ils peuvent sortir l'un ou l'autre en premier.
Exactement. Comme ils veulent. Le camion ou l'Astarac, ça sera leur libre choix, ça y est.
Sans aucun... Sortez haut, ils associent...
Exactement, voilà.
Heure et après...
Exactement, voilà.
Tout à fait, c'est gratuit pour les moins de 18 ans.
Oui,
c'est important, quand même.
C'est excellent.
Et puis, ce n'est que 17 euros.
Ouais. Que 17.
Pour 6 bêtes.
Oui, mais
c'est bien.
Mais
c'est bien.
Oh, je vous dis, j'ai cette Je vois trop les jeunes, nos jeunes, qui ne vont pas aux arènes. Ça me fait un mal, vous pouvez pas savoir. Je fais tout ce que je peux pour que le maximum vienne. Hein. J'ai envie qu'on vive longtemps, qu'on puisse venir se retrouver autour d'un micro, parler de tauromachie.
Nous, c'est tout ce qu'on va vous souhaiter. Que les taureaux maubourgais durent et perdurent encore très longtemps. Donc, on rappelle pour le repas, hein, surtout réservé, parce que c'est important pour ceux qui préparent, 06 43 78 53 15. Et c'est donc le 22 septembre. En plus, vous aurez la chance, c'est les Armagnacs qui animent en musique.
Tout à fait, voilà. Ouais, ils sont fidèles de Maubourguet, c'est des amis, donc ils seront là cette année encore.
Dès le matin, 11h, donc vous allez là-bas, mais réservé pour votre repas au 06 43 78 53 15. Vous restez avec nous pour la fin de l'émission ?
Bien sûr, bien sûr.
Merci beaucoup. Si on a oublié quelque chose, on pourra toujours en reparler.
Oui,
on va faire une pause musicale. C'est le temps d'appeler donc Pascal Daguian, puisqu'on va parler maintenant de Toros et Salsa.
Faites vos valises. Restez sur MDM.
Seguiré esperando, aunque me duela el amor, algo que hacer, alguien a quien amar, con quien contar y algo de esperanza. Y seguiré caminando, seguiré soñando, aunque me duela. La fiesta que tengo la llevo aquí. La tengo, la llevo. La fiesta que tengo la llevo aquí. La tengo, la llevo. Soy una llamita y quisiera ser hoguera.
Voilà, la bonne musique. Merci, Nico. Donc, Pascal Laguian, on va le rappeler dès qu'ils l'ont en ligne. On lui donnera la parole. Moi, je vais vous parler de la nuit du taureau pour commencer, puisque c'était le vendredi soir. C'était en prélude de Taureau et Salsa. Ben, on a eu droit à un spectacle extraordinaire avec des taureaux en pointe, hein. Mais vraiment en pointe. Hein. Moi, je m'attendais à ce que ça soit... Tu y étais, Vincent, non?
Non.
Moi, je m'attendais à ce que ce soit vraiment peut-être un petit peu touché, quoi, comme on dit. Mais non, non, du tout. Et le courage de ces écarteurs... extraordinaire, moi je veux les nommer tous, parce que Baptiste Borde, Cyril Dunouot, Mathieu Noguès, Louis Navarro, Romain Clavé, je peux vous dire que ça a été quelque chose de fabuleux, cette nuit du taureau, c'est un vrai spectacle, il y a de tout, je veux dire, ça a commencé par des aigles qui sont venus amener la clé du tauril, avec donc des gens à cheval, qui envoyaient... l'aigle dans le public. Alors, il y en a certains qui n'avaient pas de casquette ou pas de chapeau, ont reçu l'aigle sur la tête. Bon, ça, avec les cerfs, ça n'a pas trop arrangé. Il va falloir mettre la gomina derrière. Mais ça a été un très, très beau spectacle. Et je ne veux pas oublier les sauteurs, Kevin Ribeiro, qui est le champion de France, Guillaume Vergaudade, Étienne Grenet, Dominique Larrier, qui malheureusement, il a laissé une cheville, et Louis-Anso Labère. Ainsi que David Laplace, je veux dire, ça a été quelque chose de fabuleux. Il y a un taureau, malheureusement, qui a sauté dans le Cairon, et donc qui a été sur le thorax d'un chirurgien du SAMU de Dax, M. Alexandrin. Alors, je rassure tout le monde, il est rentré chez lui jeudi soir. Voilà, tout va bien. Mais les gens ont eu très peur, et automatiquement, ça a mis un petit peu de froid. Dans la, comment ça s'appelle, dans le spectacle, mais il y a eu un final extraordinaire, un petit peu, pour ceux qui aiment ça et qui se souviennent de Découfler, avec des poissons illuminés qui partaient dans la nuit au-dessus des arènes. C'est superbe, notamment aussi un gymnaste qui faisait des mouvements au centre de l'arène, quelqu'un d'assez extraordinaire. Et c'était vraiment un spectacle complet. Bien sûr, Baptiste Borde, il a dominé de la tête et des épaules, puisqu'il est souvent devant, face au taureau maintenant.
Spécialiste,
il a mis un peu en parenthèse sa carrière des carteurs.
C'est un artiste.
Et alors, je ne voudrais pas oublier surtout deux filles, Caroline Larbert, que l'on a vue sur France 3, pour ceux qui regardent une émission gastronomique, avec sa famille. Et donc une Espagnole, Amanda Monferrer, qui elle est plutôt sur la discipline de l'écart ou du récord. Mais elles ont été extraordinaires. Elles venaient d'ailleurs en soutien de l'association Phénomène, en démontrant leur courage et leur détermination face à ces taureaux de combat corne nue quand même. Hein. Je peux vous dire
chapeau bas, ouais. Caroline, elle est venue dans l'émission.
Oui.
Ici.
Oui,
mais
ça a été quand même quelque chose de tout à fait, ça a été quelque chose d'extraordinaire. C'est pour ça que je voulais rendre un hommage à cette nuit du taureau. Je ne sais pas si l'on a Pascal Daguian en ligne. Non, on l'appelle tout de suite. Donc, je voulais parler surtout de cette nuit du taureau et vous dire que c'est un spectacle à voir. Donc, c'était la, je ne sais pas combien d'éditions, mais il y a quand même 16 ans, je crois.
C'est un spectacle qui se pérennise, qui,
voilà,
qui perdure et qui ramène, parce qu'il remplit, c'est surtout.
Oui, il y était, ça. Ouais.
Oui, il y avait du monde. Il y avait beaucoup de monde. Pas le plein, mais pratiquement.
C'est un spectacle familial qui plaît. Ouais.
Par contre, après, c'est même plus des écarteurs à ce niveau, c'est des artistes.
Ouais.
Baptiste Borde, quand on voit son jeu de jambes, c'est extraordinaire ce qu'il arrive à faire. Donc,
c'est des sportifs de haut niveau, ouais. Même les sauteurs. Hein. Guillaume Vergonzane qui se cogne chaque taureau. C'est franchement, mentalement et physiquement, il faut être affûté là.
Et je trouve que du coup, cette nouvelle génération, elle a placé le curseur un peu plus haut par rapport aux précédentes générations.
Oui.
Ils ont
bien
mis
sûr.
Le curseur un peu
tu
plus
fais bien
haut.
De le dire, ouais.
Et ils se sont ouverts et ils se sont mis en danger. Et oui. ça ramène un vent de fraîcheur, de modernité dans la course hollandaise.
Et les taureaux ont bien marché. Hein. Il y avait un Palin, Bourques, la Campana, Cruz, Los Gallo et Oliveira. Voilà. Bonjour Pascal.
Oui, bonjour Michel.
Mais tu...
Bonjour à toutes.
Voilà,
à
j'ai,
tout
le... À Pascal. J'ai le plaisir de voir la corrida d'Emilio de Rousse sur l'Encerrona avec toi.
Eh oui.
Tu peux nous en parler, te donner ton opinion.
Bah écoute, le plaisir, on l'a cherché pendant un moment sur cette course. En fait, moi, je l'ai cherché un bon moment parce que, franchement, si on parle en premier des taureaux de Victorino Martin, alors je te donne mon avis. Moi, j'ai trouvé.
Bien sûr, pas
taureaux,
de problème, vas-y.
Alors, ces taureaux, je les ai trouvés faibles. Mmh. Alors, manquant de bravoure à la pique. Alors, on va dire qu'il y avait une pique à chaque taureau et. Un encuentro, sauf pour le dernier, qui était le plus albacérada du lot, et qui lui a pris deux piques.
Deux piques,
ouais. Ensuite, ces taureaux de chez Victorino, moi je les trouve nobles, mais faibles. Et donc, une toréabilité de plus en plus, facile. Et à part ce dernier taureau, qui a ressemblé un petit peu plus au type Victorino, et qui a posé des problèmes à Emilio de Rousse. Ensuite, pour Emilio de Rousse, moi, comme le dit son nom, sur une Serrona de 6 taureaux, je l'ai trouvé très juste. C'est-à-dire que sur 6 faena, j'ai vu 6 fois la même chose. Je n'ai pas vu quelque chose qui sortait un peu de l'ordinaire, où il essayait de faire des faena un petit peu différentes. Et là, c'est vrai que je l'ai trouvé... un petit peu juste dans son toréo. Manque de répertoire. Et surtout, on l'a senti aussi au capote, puisqu'il a fait un seul kit.
C'était là au premier.
Au capote, sur le second, je crois.
Le premier.
Le tout premier,
c'est pas grave. De Chicolina, rematé par la Rebolera.
Ouais.
Voilà. Et donc après, il n'y a rien eu. Il a brindé deux ou deux sobresalientes. Je me suis dit peut-être que les sobresalientes vont faire un kit. Il n'en a pas été. Lui n'a rien fait de plus. Ensuite, dans ses faenas, je l'ai trouvé un petit peu à côté du taureau, jamais dans les cornes, sauf deux ou trois séries en fin de faena, sur deux ou trois taureaux où là, il s'est croisé. Mais ça a été vraiment épisodique. Ouais. Donc voilà, après la mise à mort, on a vu qu'il n'était pas au top. Alors effectivement, quelques temps avant, il y a 15 jours avant, il s'était fait prendre à Bilbao, donc peut-être il n'était pas, je dirais, dans les meilleures conditions pour cette, ce seul face à 6 taureaux. Mais voilà, ensuite, alors je dirais que Emilio De Rusto pour moi, donc, ce qui m'a marqué, bon, bah, effectivement, quand on s'enferme avec 6 taureaux, il faut avoir du courage, surtout face à des taureaux, taureaux normalement. Et puis, donc, moi, c'est un petit peu ça que je retiens, son courage de se mettre et l'exploit un petit peu physique, parce que c'est vrai que faire à 6 taureaux sans s'arrêter, c'est quand même un exploit physique. Donc, surtout en sachant que 15 jours avant, il s'était fait prendre.
Et du coup, par rapport à ça, Pascal, ce que voilà, tu penses, c'est que c'est pas géré.
C'est ce que je retiens de cette corrida. Et malheureusement, je ne l'ai pas trouvée très, très intéressante. Et je tairai le nom du président de cette course.
Oui.
Mais pour moi, si c'est quelqu'un qui se dit aficionado a los toros, là, il nous a montré quand même qu'il n'était pas tellement aficionado a los toros. Parce que filer autant d'oreilles sur cette course, je trouve que c'est un petit peu...
Exagéré.
Et tu sais voilà. Qu'on a frôlé la correctionnelle, voilà. Puisque Victorino a failli descendre de sa barrera pour faire une Vuelta accompagnée du torero.
Exactement. Exactement.
Là aussi, ça aurait été malaisant, hein, comme on dit, franchement.
Voilà, oui, tout à fait, tout à fait.
Pascal, pour
donc voilà mon humble avis sur cette corrida de Victorino et cette Encerrona. Emilio De Rusto.
Je crois que Vincent Tachin va te poser une question.
Ouais, Pascal, est-ce que tu penses que du coup Emilio il s'est pas un peu géré physiquement, parce que quand on voit sa saison quand même elle a été longue, il arrive sur une date de septembre, il a pris quand même des boîtes importantes tout au long de l'année, est-ce qu'il s'est pas trop géré?
Alors moi peut-être certainement qu'il a géré, mais enfin à ce moment-là il faut pas moi je sais pas, mais quand tu fais un exploit comme ça avec 6 taureaux, normalement tout le monde attend cet événement parce qu'on se dit que ça va être quand même quelque chose où lui, il a décidé qu'il le faisait. Et à ce moment-là, donc quelque part, c'est la gestion, pour moi, à la limite, tu le fais pas, quoi. Et là, il faut y aller, quoi, quand même.
Non, surtout que personne ne l'a obligé à faire un Encerrona, et c'est un accord entre lui et la commission Torino de Dax,
voilà.
Où ils ont dit qu'ils allaient faire un Encerrona, voilà. Parce qu'on l'a su bien à l'avance. Hein.
Oui, le problème, quand même, c'est qu'il a reconnu dans la semaine dans le Sud-Ouest, entre autres, qu'il avait une nécessité de gérer du premier au dernier pour se retrouver encore bon sur les derniers. Donc, à un moment donné, ce qu'on peut regretter, c'est ce type de spectacle où un être humain affronte 6 taureaux, mais que ce soit physiquement comme moralement, c'est quand même difficile et c'est souvent au détriment du spectacle et même de la mise en valeur de certains taureaux.
Voilà, voilà. Mais écoute,
Mano à Mano aurait été peut-être plus judicieux. Mano à Mano aurait été peut-être plus judicieux.
C'est vrai, bon, ça aurait peut-être mieux.
C'est comme ça, voilà.
Et on en aura peut-être l'an prochain. On parlera de Roncarrette à la vente, on vous en parlera tout à l'heure. On va te libérer, Pascal, parce qu'on sait que tu es occupé. Non,
ouais,
c'est nous.
Merci beaucoup. Bonne fin d'émission
bon voyage.
Et à très vite.
Merci, à très bientôt. Donc moi, je voulais vous parler de ce que j'ai vu, mais je vais vous le dire en quelques mots. Je vais essayer d'être rapide. Pour moi, les Victorino, eh ben, il a fallu attendre le quatrième pour voir deux piques normales. Même le sixième, seul type Albacerada n'a pris que deux sous-cutanés. Pas de bravoure au cheval, par contre de la noblesse et de la faiblesse au dernier tiers. Excepté le dernier, Alimagna, de notre temps. La prestation d'Emilio De Rusto fut médiocre, manque d'engagement en général et de répertoire, beaucoup trop juste pour une Encerrona. Enceronada, pardon. Un seul kit, on l'a dit. Donc, au premier, j'ai mis une faena ni fou ni fa. Entre passage sur le voyage et muleta sont accrochés. C'est croisé une ou deux fois, on l'a dit aussi, en fin de faena, sur la corne gauche. Long avec l'épée, il rentre droit au septième assaut seulement. Hein.
Long, très long.
Septième assaut, quelques bonnes séries.
Ouais.
À son second, templé, mais trop peu pour la bonne noblesse du bicho, Tu es d'un pinchasso et d'une entière en place oreille de complaisance. Au troisième, très noble et très faible, mouletasso des deux côtés avec deux petits pantres chaque passe chaque fois. Donc pas de ligasson. Sur la fin, une céréale naturelle, main droite, le reste, fouet à le catch. Tu au troisième en vol, deux avis. Au quatrième, pas grand-chose, perd souvent du terrain face au noble Victorino. Fuera de catch, encore sur le voyage, trois quarts de l'âme dans le coup, salut au tiers pour son compte. Le cinquième, il a été bien à la cape, d'ailleurs comme à son second, hein, à la cape aussi il a été bien au second. Avec la mouleta, aucune fantaisie, on l'a dit. Toreo qui ne passe pas la rampe, en tire un peu de côté une oreille, avec une pétition minoritaire.
Comme la deuxième.
Au dernier, à noter une série de naturels à l'arrache, la bagarre avec un vrai Victorino donne de l'émotion dans les tendidos. Sur des demi-derechasso, poussif, cela suffira pour que tombent deux oreilles du palco après un estoconasso, ce qui fait quatre en tout et permet d'ouvrir moins ridiculement la porte du parc Théodore Denis. Une sortie par le patio de Caballo avec quatre oreilles sur 12 fut plus appropriée, à mon avis. La tentative de Vuelta du Ganadero fut consumée par les sifflets. Oui. Voilà ce que j'ai marqué.
Oui, si je peux
merci Michel.
Merci Michel. Je suis dans l'ensemble d'accord avec toi. Là où il m'a un peu énervé, Emilio de Rousseau, c'est ce Toreo fuera del cacho. Sans arrêt, en dehors des cornes. Et là, quand même, c'est énervant. À côté de ça, quand même, je lui reconnais un courage. Quand même, il s'est battu.
Il en a tous du courage.
Mais par contre, je préfère pas envisager le fait que s'il avait pu tuer du premier coup, combien d'oreilles il aurait eu? Parce que là, ça devient quand même.
Ah, ben là, ça partait, c'était la farandole, là.
Ah oui.
Ah là, mais je te l'annonce, ça partait oula. Partout, hein. Ah ouais, dans tous les sens.
On aurait pu faire chanter Jeanne Calment, en fond.
Non, mais moi, messieurs, je vous remercie parce que quand je suis sorti des arènes et que le lendemain et le surlendemain, je voyais les Résénias un peu partout, je me demandais si j'avais vu la même course. Et certains lucides, donc autour de la table, et merci également Pascal Laguian, Je me retrouve à Fissionado et je vois que certains lucides gardent leur esprit et ça me fait plaisir. Et Victorino, où sont passés nos vrais Victorino?
Mais il n'y en avait pas. Il y en avait un, le dernier.
Non, c'est que Victorino, tout simplement, on est en train de voir le virage qu'a pris le fils après le père.
Il a mis de l'eau dans le vin, oui.
Tout simplement.
Du commercial.
19 lots sortis cette année. 19 lots.
Après, le père a cédé la main, a pris le fils.
Oui.
Forcément, le fils allait mettre, après avoir passé je ne sais pas combien dans l'ombre du père, alors c'est son choix lui, mais il allait mettre sa patte et on voit les résultats maintenant. C'est tout. Après, il ne faut pas repartir dans le passé en disant les Victorino-Martin. Je pense que les Victorino-Martin qu'on a connus, c'est fini.
Si, je crois.
Si, on est parti sur une nouvelle ère.
Parce que lui joue encore sur le nom. Tu pourrais ne pas revenir en arrière si Victorino Martin, il disait mes taureaux, c'est plus les mêmes que l'époque et c'est des taureaux qui ne vont plus à la pique et qui servent que pour le troisième tiers. Or, c'est l'inverse. Il joue encore sur le nom Victorino Martin et il te fait remplir les gradins avec une Acerona qui est de la poudre de perlimpinpin. Donc tu peux pas revenir en arrière. Tu peux revenir en arrière.
Là, tu parles sur cette course. Hein. Mais on a quand même vu quand même des taureaux de Victorino cette année quand même. Qui sont allés au cheval.
Où ça?
Je vais pas te le dire là de suite, mais on a vu quand même du Victorino. Faut pas croire non plus, attention, parce que là.
Mais en général, quand
Nîmes,
même.
Nîmes, aucun.
Mais, attention, parce que là, je trouve peut-être qu'on parle un peu facilement, mais ça reste quand même du Victorino.
Eh bien, je suis pas d'accord avec toi.
Ça reste du Victorino.
Moi, il n'y a que le dernier qui est un Victorino.
Il n'a plus que le nom, parce qu'à Nîmes, il n'y en a aucun qui a pris une pique. Là où il y a eu l'indulto à côté de Madrid, c'est un taureau qui a été non piqué, voilà, il faut le dire, mais il a eu indulto parce qu'il a bu la mouleta jusqu'à manger le sable.
Et bravo à la pique.
Voilà.
Ça, je suis d'accord. Après, je pense qu'autour de ça, personne ne s'est mis en face d'un Victorino. Et même, je pense qu'un Victorino édulcoré, ça reste quand même du Victorino.
Oui, il est facile parce que chacun son métier. Nous, on est autour de la table.
On va passer peut-être au reste.
Ouais, c'est facile. Mais
c'est un argument. Moi, j'ai regardé d'autres courses aussi.
Il ne faut pas parler facilement non plus.
Et non, mais
Pascal,
tu as
vu la course?
Non.
Tu vois, c'est animé.
Je ne me permettrai pas de. Non, mais c'est très bien. C'est la tauromachie. Il y a du débat.
Moi, je vais passer à la Noviada. La Noviada de Rosé Cruz, pour moi, elle fut très intéressante, non par la qualité du bétail, mais par la diversité comportementale des pupilles du sémillant Rafa. La faiblesse est omniprésente, même sur les deux derniers, au trapio de taureau, preuve que le poids n'a rien à voir. À la pique, le tambour major en prend deux, mais ne met les reins que sur la première. Le deuxième, deux picotas dont il sort seul. Le tercero, il met aussi les reins sur la première et est très bien piqué à la seconde. mais manque de force. Le quatrième, une pique avec force, mais non bravoure, ce qu'il ne faut pas confondre. Il a soulevé avec le morillo, avec sa force, mais il n'a pas poussé. Et une sous-cutanée derrière. Le quinto, il sort seul de la première. Prend bien l'autre, par contre. Il recharge à la sortie, seul, sur le picador. Donc, un bon tercero de la quadrilla d'Alejandro Mora, j'ai noté. Par trois fois, il sort le taureau du picador de réserve. Et le sixième, trois rencontres pour rien, tête haute, et sort seul. Le plus noble fut le sixième. Les plus faibles, 2, 4 et 5, donc ça fait beaucoup, ceux de Mora d'ailleurs. Jean-Baptiste Molaz, il n'a pas eu à se plaindre du sortéo à mon avis, alors que Diego San Román, eh bien, il laisse échapper une sortie à Ombros pour avoir trop allongé la faina, à mon avis, du quatrième, après avoir coupé une bonne oreille au premier. Qu'est-ce que tu en penses, Vincent? T'as vu la course à Noviana?
Non, je suis juste vu le solo de De Rusto.
D'accord. Et donc, pour finir sur cette Noviana, la noblesse omniprésente, je l'ai dit, sur le lot, dont les deux de Diego San Román, qui maîtrisent parfaitement le sujet, sur les deux côtés, au premier, entière dans le haut, de côté. À son second, bonne corne gauche, bien exploité avec Temple, le novillo sort essoré, termine tête basse, un pinchasse, un tiers de lame de côté, d'escabeille, un avis au premier, et une oreille, et salut au tiers. Il a un avis et une oreille au premier, pardon, et salut au tir au deuxième. Il rate la sortie au moins, c'est dommage. Pour avoir trop allongé la faina, c'est souvent ce qu'on voit des fois.
En Noviada surtout, ouais.
Ben, c'est que les gamins, ils ne tournent pas souvent.
Ouais, et Pereira aussi. Hein.
Mais quand les gamins en Noviada, ils ne savent pas quand sera le prochain contrat ou quand ils ont assez peu de contrats, généralement, ouais. Quand ils ont un bon taureau ou quand ils ont du taureau, ils en profitent.
Tu as raison, ouais. Ils en profitent. Il y en a pas mal, ouais. Mais en fait, là, il a fini tête basse, il était obligé de pincher, quoi. Il ne pouvait pas lui faire relever la tête.
Mais il apprend, il est noviero encore.
Oui, bien sûr, mais c'est un très bon noviero.
Il faut être indulgent, ouais.
Moi, je l'ai vu à Jetmo, il m'a agréablement surpris parce que c'est un torero racé avec de la gueule dans le sens positif du terme. Et avec un torero très stylé.
Alejandro Mora, mais il profite de la bonne corne gauche. D'ailleurs, on dit des fois que la première corne, la première faina donne le tempo un peu pour la course après. Ah. Et bien là, les cornes gauches, elles ont toutes été bonnes.
Mais Alejandro Mora, c'est un gamin que j'adore.
Bonne corne gauche à son premier, d'abord sur le voyage, puis après à droite, il a rectifié avec du picot, parce que le Nobillo, il avait tendance à se coucher sur lui par faiblesse. Bonne main gauche, superbe naturel, finale. Il a fait des naturels extraordinaires sur la fin. Il ne rentre pas trois fois. Et il ne rentre pas pour laisser finalement une entière devant, basse, un avis. Et son second, eh bien, il ne va pas au bout, malheureusement, par faiblesse. Il tombe plusieurs fois, beaucoup de sites fuera de cacho. Il profite de la bonne corne gauche, toujours, pareil. Et en oublie malheureusement la droite. À la mort, il ne rentre pas encore, donc il a un problème à la mort, pour moi. À la deuxième, une demi-lame très basse, un peu verticale, quasi baronasso. N'oublions, mi manso, mi bravo. Il a un petit problème à la mort. Allez, ouais, mort. Mais autrement, en toréo, il est bon.
Lui, je pense que ça va être un futur grand. Je m'avance peut-être un peu, mais je mets de grands espoirs sur ce gamin. Moi, je l'avais été époustouflé quand il était venu à Saint-Sevé pour la semaine taurine. On l'a revu à Garlin. Moi, c'est un fois, gamin. Ouais. À chaque sortie, il m'espante. Quoi.
Il est beau à voir. Hein. Après, il n'a pas énormément de contrats. Il pourrait,
La mise à mort, il ne rentre pas, malheureusement. Bon, non. Mais parce que quand il va rentrer, il va couper des talons, hein.
C'est pour ça, ouais. Oui. Mais bon, on est matador de taureaux, donc...
On dit matador de novillo aussi.
Et de novillo, mais
ouais, de novillo, ouais.
Bien toré, il y en a des centaines qui savent bien, voilà. Toré, mais après, il faut se tuer pour couper les oreilles.
Sébastien Castella, qu'on ne présente plus, était l'un des plus mauvais matadors tueurs en Noviada. Donc, il a... S'il peut s'en espérer.
Faut espérer pour Alejandro Mora qui
peut progresser. Ouais.
Qui progresse à la mise à mort. Jean-Baptiste Molas ne maîtrise rien sur la mise en suerte à la pique. Novillo distrait, certes, mais qui commande, c'était le Novillo. À la muleta, il s'est fait promener dans tout le redo, fuera de cacho, de temps en temps, des gestes très toreros, pinchas au bas. Au dernier, rien à la cape, si ce n'est un kit par galonnaire. À la muleta, le site de loin, et dans tous les sens du terme, de la torerie qu'il a et qu'il affectionne, c'est certes, dans des séries templées, toréo en rond, dont il abuse, toré pour lui, il ne pèse pas du tout sur le novillo. mais il avait Trapio, les deux derniers de taureau. Hein. Et il était très noble d'ailleurs, il a été plusieurs fois désarmé. À gauche, moins d'options, c'est vrai. Il tue au deuxième assaut après un pinchasso sur le devant par une entière contraire en arrière. Vuelta au taureau exagéré, à mon avis, vu le comportement à la pique, silence et silence. Parce que le taureau à la pique, il n'y a pas été du tout.
Bah après, Jean-Baptiste, c'est que c'est dur de donner un avis sur Jean-Baptiste parce qu'il taurait très très peu.
Je suis d'accord, mais c'est la donc, faute à personne.
Non, mais c'est la faute à personne, mais c'est plus compliqué d'être au niveau face à quelqu'un qui a touré 30 courses et lui qui, c'est peut-être même, je crois, sa première ou même sa deuxième. Non,
sa deuxième de l'année, ouais.
Le plus qu'il y en a, c'est Diego Saroman, il en a à peine 15, même pas. Bon, mais... Voilà, non, mais pas, c'est pas 30 quand même.
Il y en a, bah, a de oui, moins en moins, non. C'est de nous, il y a de piquer, ouais.
Voilà, il y en a de moins en moins.
Mais il y en a de moins en moins, mais Diego Saroman, il est 15, plus les autres qu'il a touré avant. Jean-Baptiste, tout cumulé, il doit...
5, tout cumulé, 5, pas plus.
Ouais, encore pas plus, et peut-être moins.
Vous avez vu la course d'Alguera ?
Non.
Ben, les Luis Alguera, je vous en parlais un petit peu, ils étaient bien présentés et nobles, en général. C'est la faiblesse qui a dominé, malheureusement. Les piques réduites à une hauteuril pour le troisième, et une normale pour le premier et le sixième. Quatrième et cinquième, pas piqué. Miguel Arel Pereira, Faina Classique sur les bordures. Avec Temple, excepté le désarmé à la fin, long à la mort. Il était à 15 secondes du troisième avis. Et une demi-lame sur le devant tombé d'Escabello. À son second, bonne faïna d'infirmier, entière bien placée, poussée un peu en travers, à citer de loin, c'est vrai au début, un taureau très noble, donc silence et deux oreilles. Daniel Luquet, écourté, la faïna écourtée, pardon, faïna écourtée, vu la faiblesse du taureau, et sans engagement. À son deuxième, bien à la cape, faïna essentiellement gauchère, sauf une série à droite, première de la main sourde, carrément thomasienne. Hein. On aurait cru voir aussi Thomas. Sur la fin, le duende est apparu, avec des redondos inversés et à l'endroit, avec changement de main enchaîné, pinchasso, estoconasso en place. Donc il y a silence et deux oreilles, coupe deux oreilles au dernier. Pablo Aguado Rebelui, faïna très courte, sans aucun relief, demi lame sur le devant poussé en travers d'escabello, ça, plusieurs d'escabello, ça c'était son premier, et au dernier il fait le job, mais avec beaucoup moins d'officio que ses deux collègues, et un placement hasardeux font toute la différence, en tire sur le devant et de côté, silence et une oreille d'encouragement. Tu vois que j'oublie pas les histoires d'officio, hein, mais quand même aujourd'hui il a 27 ans, Jean-Baptiste Molas, et s'il a toré peu, c'est pas la faute de tout le monde.
Non, non, non. Hein,
voilà, on est d'accord.
Non, l'âge de la Guado. C'est 27 ans, c'est l'âge de la Guado. Tardive.
Après, Jean-Baptiste a eu un parcours aussi.
Tellement bien qu'à un moment, atypique. On se demandait si vraiment il voulait faire ce métier ou s'il voulait pas le faire.
Il a eu un parcours un peu atypique, ouais.
Non, mais vous imaginez, il a l'âge de la Guado. Donc bon.
Mais 27 ans, c'est vrai que c'est âgé.
On va faire une petite pause musicale et on revient donc pour les noticias.
MDM. Tout un monde.
Pasando por el limonar, la malagueta, la cala y el puerto se oye de cantar. Paseando por el limonar, la malagueta, la cala y el puerto se oye de cantar. Sin par pinceles universales, cuna de niños sin par, letras que fueron cantares. Ay.
On va parler un petit peu de ce qui s'est passé à Mont-de-Marsan. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Alors, on peut dire que la société Kika existe. Elle n'y est plus, elle n'existe plus.
Next.
Le conseil consultatif taurin apparemment disparaît. Si je me trompe, on me le dit. C'est une année de transition, l'a dit le maire, puisqu'il y a des élections municipales en avril. Donc, celui qui va faire la feria maintenant n'est pas sûr d'être encore là, d'être encore en place, disons, comme maire, je parle, n'est pas sûr de jeter la clé pour 2020.
C'est ce qui justifie voilà. D'ailleurs qu'il
n'y a pas C'est une formule de transition. Hein. Voilà.
Quelle logique aussi il y a.
Moi, j'ai compris que lors de la conférence de presse, que la Parera, Jean-Baptiste Jalabert et Alain Lartigue voulaient donner plus d'importance aux taureaux. C'est ce qu'ils ont dit clairement. Une commission taurine, municipale ou extra-municipale, je ne sais pas comment il faut la nommer pour le moment, parce que c'est bien différent selon le règlement du VTF. Il y a 8 personnes, dont 6 nommées par la mairie, dont un élu, ce qui est normal, puisque c'est obligatoire. Mais après, il y a quand même 5 personnes nommées par le maire. Et seulement 2 des peignants. Voilà ce qui se passe pour le moment. On va donner donc Christophe Andinet, Romain Laborde, Pedrine Sevilla, Didier Gaudin, Pascal Darquier et depuis hier soir, 2 membres des peignants, Vincent.
Oui, c'est exact.
Qui sont ? Toi-même ?
Peña Escalier 6 et Peña Los Pechos.
Voilà, toi-même pour Los Pechos et...
Aurélien Paris.
Aurélien Paris pour Escalier 6. Voilà, donc, pour ce... à peu près ce qu'on peut dire pour le moment, est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter, Vincent ?
Quelque chose à rajouter, il va falloir se mettre au travail.
Et il y aura 3-4 réunions.
Alors, il y a... Alors, ça, après... attention à ce qu'on va dire, parce que c'est... il va falloir démarrer, mais rien n'est entériné. Mais on part sur des réunions thématiques pour les peignats.
Avec des commissions.
Avec des commissions. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura des thèmes que les peignats vont se regrouper et vont choisir des axes de travail. Donc, il y aura, je cite des exemples. Des exemples, attention. Donc, il y aura, ça peut être la PIC, ça peut être les présidences, ça peut être la Ligue, ça peut être, voilà. Donc, il va y avoir des réunions. Les peignats vont travailler dessus, vont donner leur avis. Les représentants de Peña vont porter cet avis et ce travail auprès de la commission taurine, auprès des prestataires, pour que ce soit appliqué dans la mesure du possible, avec la réalité qui est celle de l'arène, avec du marché, tout ça. Donc, voilà. Donc,
il se réunira 3 fois. C'est ce qu'il avait dit.
Il y aura 4...
La commission taurine. 3 ou 4, ils ont dit. Alain Lartigue et Jean-Baptiste Jalabert en conférence de presse.
Ouais, voilà, ouais.
Voilà. Après, d'ici le mois de mars. Hein.
D'ici le mois de mars.
Après, lié à ça, j'entends beaucoup parler des peignats et ça me fait plaisir. Mais est-ce qu'on prend en compte ceux qui sont aficionados, abonnés depuis X temps aux Plumaçons, mais qui ne sont pas membres des peignats ?
Non, pour le moment, non. Alors, je vais te dire pourquoi. Parce que il a été répondu, d'ailleurs, je ne me souviens pas par qui, qu'ils ont calé dans les peignats.
Alors,
mais qu'il y a quand même, dans les 9 peignats actuellement, il y a environ 500 personnes hein, déjà. Dans les 9 peignats, ce qui a été déclaré, c'est autour de 500 personnes. Oui. Donc, sur 1400 abonnés, on dit bien abonnés, puisqu'il y en a qui ont 2-3 abonnés, il manque du monde, il manque 900. 700 à 800, 800 abonnés, 800 aficionados. Et moi, j'ai proposé qu'on fasse un rite. On m'a demandé ce que c'était, j'ai dit que c'était un référendum d'initiative taurine. Pour ces personnes-là. Je n'ai pas été suivi des faits, mais peut-être que ça se fera. C'est ton bien.
Non, mais à la réunion d'hier soir, le sujet a été abordé. Donc, il sera fait quelque chose dans ce sens-là pour les gens qui sont aficionados au Plumaçon, mais qui ne sont pas forcément membres d'une peña. Donc, est-ce que ça prendra la forme de plénière ? Est-ce que ça prendra la forme d'autre chose ? Parce que c'est quand même... il faut réfléchir sur le moyen de communication et de quelque chose qu'on met
bien
en place.
Sûr, c'est pas évident.
Parce que ça, plus on est nombreux, plus c'est inaudible, plus c'est compliqué de gérer les débats.
Oui,
et d'avoir un échange.
Faut pas aussi
même quand on n'est pas nombreux. Parce
ou même
que
quand on n'est pas nombreux.
Au sein du conseil municipal, au sein de la conférence de presse, il avait été dit que le président de la commission de Taurine serait nommé le 23 septembre. Mais apparemment, on le connaît déjà. Puisque c'est Christophe Andinet, ça a été dit un peu partout, non ?
Oui, ça a même été écrit, je l'ai vu mort sur plan.
Ça a été annoncé
soi-disant, il devait être élu par la commission de Taurine. Bon, c'est pas grave, et on prend acte, dont acte. Et donc, le maire a dit qu'il y aurait un nouvel appel d'offres en avril 2020.
Ce qui est normal.
Voilà, ce qui est normal.
Oui.
Et voilà, moi, pour moi, c'est ce qui a été dit, ce que j'ai entendu dire.
Bon, alors moi, je vais être assez la réalité. C'est qu'entre ce qui se dit, ce qu'on entend...
Mais à l'intérieur, ça a été écrit. Il était écrit. Président de la commission de Torino.
Je ne l'ai pas vu écrit. Hein. Je ne sais pas où...
Non, sur blanc, je l'ai vu écrit.
Il y aura une décision qui va être rendue, je crois, le 23 septembre.
C'est-à-dire que ça sera officialisé.
Officialisé, donc
on va parler.
Validé, officialisé.
Voilà. Ah, mais après,
validé, officialisé. Après,
on va passer aux notices qui sont plus intéressantes pour le moment, oui, sinon, parce qu'on n'en sait pas plus.
Voilà, il faudra attendre.
Il faudra voir le travail. Ce qui m'embête, enfin embête, c'est un peu un gros mot, mais ce qui est dommage, c'est qu'on ne prenne pas en compte ceux qui ne sont pas dans les peñas. Pour X raisons d'ailleurs.
Mais c'est vrai que ce qui est dommage, c'est que toutes les peñas ne sont pas représentées.
Si vous voulez bien, on va passer aux notices. Oui. Bon, d'accord. Non ?
Oui, chef.
Non, c'est pas chef, mais qu'est-ce que vous voulez dire de plus ?
Si
c'est pour bavarder, passer du temps.
Faudra analyser la suite, là on est en septembre.
Si on attaque le sujet, ça risque d'être long.
Donc, après des mois de mobilisation, le projet du mémorial en l'honneur d'Ivan Fandinho, porté par l'association Eterno Fandinho, touche but. Ce mémorial, une œuvre de l'artiste espagnol Sergio Del Amo, va prendre place dans les semaines à venir à Air-sur-Adour, juste aux côtés des arènes Maurice Loche. La statue sera dévoilée au public le dimanche 29 septembre prochain, une date qui a une résonance toute particulière puisqu'elle correspond à la date anniversaire du Torero Basque. Il aurait fêté ses 39 ans. La cérémonie d'inauguration aura lieu à 11h en toute simplicité. Elle sera suivie d'un moment de convivialité, comme toujours à Air-sur-Adour, partagé autour d'un vin d'honneur. Enfin, nous profitons de ces quelques lignes, c'est un message qu'ils nous ont envoyé, pour remercier à nouveau l'ensemble des personnes aficionados, professionnels de Torino, Club Torino et Peña, élus et entreprises, et radio, je rajoute, qui ont soutenu cette initiative et permettent aujourd'hui, grâce à une très forte mobilisation, de rendre un hommage majuscule au maestro Ivan Fandinho. Voilà pour Eterno Fandinho. Oui, Gilles ?
Oui, concernant Thomas Dufaux, le torero hollandais qui a foulé le ruedo de Las Ventas, a dû combattre, après une blessure d'Arturo Macias, trois taureaux, et bon, ça s'est pas trop bien passé, puisque sur le premier, il n'a eu droit qu'au silence. Pour le deuxième, un taureau de Reruelga, il a juste salué. Et pour le dernier, il a tardé, un Reruelga aussi, il a terminé dans le silence. Donc, c'est pas une grande prestation.
Vincent ?
Eh bien, on touche à la fin de la saison, donc
oui.
On va arriver à la période des rumeurs du mercato.
Pleure pas.
Voilà, donc Rocare et Talavante, ils ont fini la saison tous les deux, ils en ont profité pour se voir chez Talavante. Donc évidemment, comme le milieu torin est aussi un peu un milieu de commerce, on va l'assumer. Hein.
Ouais. Oui.
Les spéculations vont bon train, donc est-ce qu'ils vont faire un petit duo l'an prochain
C'est pas les premiers, loin de là, dans l'histoire de la Torino.
Loin de là, non. donc à voir s'ils vont faire une petite association pour passer outre les imprésas qui font la loi, donc beaucoup de spéculations, beaucoup de rumeurs, donc attendons de voir.
Oui, Aymeric.
Amor 5, c'est une KPA le 28 septembre, donc ça sera à 17h, avec Juanito, Adrien Luc et Guillaume Choquet, et ça sera suivi d'une paella et flamenco à 18h à la salle du Maroc. Le repas, 14€ pour les adultes, paella, salade, dessert, café, et pour les moins de 12 ans, 6€.
Est-ce qu'il y aura une vache pour des aficionados practicaux ?
Non, je les ai eu au téléphone, il n'y aura pas de, par souci d'assurance et de sécurité, il n'y aura pas de vache pour les practicaux, mais ils attendent de voir, comme c'est la première édition, voir comment ça va se passer pour se lancer dans un autre projet, c'est différent.
Il faut peut-être les appuyer, les aider.
Oui.
C'est une super initiative pour initier à Toromachi, ouais.
Donc, à noter aussi, suite Emilio De Rusto, que Emilio a été récompensé du prix populaire, Code populaire. Il a reçu dans le patio de Cavaglio au lendemain de son solo. Et d'ailleurs, la réception qui a été organisée dans ce patio a permis à Jeannette Molas, et il faut qu'elle le note, de récupérer une cape d'Emilio De Rusto. Celle-ci, dédicacée, va servir à l'association des visiteurs de malades du centre hospitalier de Dax.
Voilà, Fiesta Brava,
c'est nous.
On y est à Fiesta Brava. Toromag, pardon, puisque c'est un partenaire de Fiesta Brava, il est en kiosque avec les Feriadas Peitia, Béziers, Bilbao, Dax, Saint-Gilles, l'alternative de Thibaut Garcia, Ortez Parentis et toutes les courses de l'été, notamment le triomphe de Daniel Luque à Bayonne avec une magnifique photo, deux oreilles et la queue de Luque dans tous les kiosques Fiesta Brava. Vous pouvez vous abonner aussi, c'est un partenaire de la radio Fiesta Brava et de l'émission que nous avons le plaisir de vous présenter. On va donc terminer avec vous, avec Maubourguet. On rappelle que c'est le 22 septembre, Pascal Bounot.
Oui, voilà, le 22, à 11h pour la Tienta et à 16h pour la Noviada San Picador. Voilà, on vous attend nombreux.
Avec un numéro de téléphone 06 43 78 53 15 pour le repas qui est entre la Tienta et la course.
Tout à fait.
Hein, on rappelle que c'est 3 Camino Santiago, 3 de la Starac pour Christian Parero, Manuel Pereira et Jean-Baptiste Luc. Et en prélude, donc, il y aura deux vaches du Camino Santiago pour Ricardo Torres et Dorian Canton, et le fils de Ricardo Torres en second.
Exactement.
Voilà, je crois qu'on a à peu près tout dit, si ce n'est que la prochaine émission Fiesta Brava, eh bien, nous aurons avec nous, nous aurons le plaisir d'avoir Alain Lafourcade qui viendra présenter son livre, Les arènes du Plumasson de 1989 à 2018. Pourquoi garder tout cela pour moi ? Oui. Il disait dans Sud-Ouest.
C'est très intelligent, je trouve.
Très bel ouvrage et de poids, d'ailleurs.
Hein. Oui, 399 pages.
Non, mais c'est
il viendra avec son épouse qui a participé à l'élaboration de cet ouvrage.
Bravo.
Je,
hein.
Je trouve que le titre de l'article, il est très bien trouvé parce que pourquoi garder tout ça pour moi, ben, c'est du partage et c'est, oui. C'est tout à son honneur parce qu'on sait qu'il y a des privés qui ont une grande collection et tout ça. Donc, il faut savoir aussi en faire profiter les autres. Et je trouvais le titre très bien trouvé.
Et puis, c'est une bonne suite, hein. Au livre de Geneviève Fondeviole et au Plumasson s'affiche.
Voilà, pour finir sur Eterno Fandinho, il y a la dernière ligne droite pour ceux qui n'auraient pas encore contribué au projet. Ben, vous pouvez envoyer pendant quelques jours encore vos dons par chèque hein, à ordre Eterno Fandinho et adressé à l'association Eterno Fandinho, boîte postale 88 40 801 sur Sedex ou par virement bancaire RIB disponible sur simple demande par mail à eternofandinho@gmail.com. Ça servira, si j'espère, à payer la femme de ménage qui ira nettoyer de temps en temps le reste. Servira à ça, qui ira nettoyer de temps en temps donc, ce buste ou cet hommage à Ivan Fandinho devant les arènes d'Arthur Adour. Parce que malheureusement, on en voit certains en piteux état hein, de temps en temps. Ils sont un peu oubliés, on les met devant les arènes et puis après...
Par rapport à ça, il nous reste une petite minute. Oui. J'ai trouvé ça très irrespectueux quand j'étais à Bilbao là, pour la corrida pendant la Semana Grande. Sur l'esplanade des arènes, donc il y a fièrement la statue.
Oui, oui.
Les gens, donc il y a une petite esplanade, un petit rebord. Les gens n'ont même pas le respect de ne pas monter sur le rebord. C'est-à-dire que pour prendre des photos, pour... Alors, je sais pas, c'est... surtout Ivan Fandinho à Bilbao, c'est une icône quoi. Bon bref, c'était un aparté qui m'intéressait de dire parce que il faut quand même parler. On parle de tauromachie, on parle d'éducation aussi.
C'était aussi une icône à Mont-de-Marsan.
Oui, à Mont-de-Marsan et pas que. Hein.
Merci beaucoup Pascal Bounot d'être venu nous voir.
Merci à vous.
Et on vous souhaite une très belle journée le 22.
Merci beaucoup.
22
merci.
Septembre à Maubourguet. Merci Gilles.
Merci à vous.
Merci Vincent.
Merci à toutes et à tous.
Merci Aymeric.
Merci à toi Michel, merci
et
à
merci
tous.
Et merci surtout à la technique avec Pierre-Alain et Nico. C'était Fiesta Brava, à dans 15 jours.
Adi chats.
Adi chats, c'est Robert.
C'était Fiesta Brava sur MDM, en partenariat avec Tauromag, le mensuel de la tauromachie. Tauromag, en kiosque, le deuxième jeudi de chaque mois.
Con su capote y con su Mercedes. Por el camino se iba toreando con su capote y con su Mercedes. Por el camino se iba toreando
el coco,
el coco,
el coco,
y no me quiero recordar. Alegría, pensamiento.